Quel est l'intérêt des témoignages de personnes handicapées pour les élèves de votre formation?
L'intérêt direct, c'est que l'auxiliaire, elle puisse, ou il, hein, faut que je fasse attention parce que c'est un métier mixte, qu'il puisse travailler sur eux, sur cette rencontre avec la personne qui témoigne. Qu'est-ce que ça lui renvoie? Qu'est-ce que ça véhicule? Avant toute chose, c'est ça, c'est la rencontre à l'autre, à la différence. Et puis toujours être dans une rencontre constructive. Tiens, moi je pensais ça, mais finalement c'est ça. On est dans cette rencontre-là. Connaître le handicap par ce biais-là, je trouve que c'est très pertinent parce que ça fait tomber des murs, ça fait tomber des représentations. Ça, c'est le premier objectif, ouais. Déstigmatiser la personne en situation de handicap et la revaloriser. Voilà.
Y a-t-il des personnes ayant un handicap qui participent à cette formation?
Oui, mais des handicaps, il y a des personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé qui se forment pour devenir auxiliaire de vie, oui.
Et dans les formateurs, y a-t-il des personnes handicapées?
Oui, également. Il y a des handicaps qui se voient plus ou moins. Mais moi, en plus, comme je suis directrice, donc les gens m'informent quand ils ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Et oui, bien sûr, bien sûr.
Et est-ce que suite au témoignage ou à la fin de l'information, certaines personnes, certains élèves décident d'arrêter parce qu'elles ne se sentent pas capables ou pas?
Oui, oui, tout à fait. Il y en a qui perçoivent que c'est trop dur ou que c'est finalement pas leur chemin. Tant mieux. Au moins, elles l'ont décelé à ce moment-là. Parce qu'on les a mises en situation. Et puis des fois, ça arrive en différé. Hein, on ne peut pas tout contrôler, on n'est pas parfait.
Comment sont sélectionnées les personnes qui viennent témoigner, s'il y a une sélection?
Pour moi, le plus important, c'est que ça se fait en plusieurs temps. Moi, je veux que ce soit une parole qui soit constructive. Il faut que la personne, elle puisse aller vers cette parole. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Quand ça fait trop mal, c'est respectable. Moi, jamais j'irai au-delà de ça. D'ailleurs, il y en a souvent qui me disent « c'est pas le moment ». Et puis voilà, 2 ans après, des gens qui me disent « ben là, je me sens d'avancer ». On est vraiment dans une co-construction, il n'y a pas de recrutement. Il faut y aller doucement, c'est une rencontre. Moi, je viens rencontrer des personnes grâce à cette méthode québécoise où on met en mots le vécu. Moi, j'essaye de ne pas trop le déformer. Et puis surtout que ce soit constructif aussi pour vous, hein, que cette parole soit pas trop déstabilisante. Donc ça, c'est à moi aussi à jauger, à moi et puis aussi aux coordinateurs, aux personnes ressources. Hein, on n'est pas seul dans cette démarche.
Quelles sont les difficultés administratives?
Il y en a plein.
Non. Comme de partout.
Moi, c'est vrai que mon corps de métier, c'est la formation. Je ne suis pas de nature administrative. Donc, quand j'ai créé Performante il y a 2 ans, vous imaginez bien que l'administratif, un centre de formation, c'est colossal. Quand on doit faire des attestations d'entrée, des conventions, rendre des comptes aux prescripteurs, tout ça. Donc oui, c'est un énorme travail administratif. Là, je suis contente parce que depuis un mois, j'ai une nouvelle collaboratrice. Hein, je ne suis pas toute seule, on est 3 maintenant. Et c'est vrai que ça me soulage parce que c'était souvent aux dépens du temps que j'aurais pu passer avec les témoins ou les stagiaires ou formateurs. Mais il y a beaucoup d'administratifs, oui.
Quelles sont les difficultés humaines?
La difficulté humaine, il faut arriver à être strict quand il faut l'être. On peut être humain, il le faut. Par contre, pour toute organisation collective, il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait une hiérarchie, il faut qu'il y ait un respect des règles, il faut qu'il y ait un règlement, une charte d'engagement, une charte de bonne conduite. Donc c'est vrai que tout ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de remise en question. Je suis en train de le faire avec ma nouvelle collaboratrice, Valérie Blondel, qui travaillait à la Maison des aidants. Et on est toujours en train de se remettre en question sur la place du formateur, la place du témoin, le stagiaire, le lien avec les employeurs, les services à la personne. C'est fastidieux.
Donc déjà, combien de temps dure la formation ?
Oui. Donc on
là
a
des formations, si on a plus.
Oui, tout à fait. On a deux types de formations. Une première formation, donc qui dure 3 mois. Donc c'est un premier niveau. Hein. C'est un premier stade d'assistant de vie. Donc ça, c'est des formations qui sont ouvertes, hein, à des personnes motivées qui peuvent nous contacter. Et puis on a des formations longues de 9 mois. D'auxiliaire de vie, spécialité handicap et perte d'autonomie. Et donc là, ça dure 9 mois. Voilà. Mais les 3 mois permettent d'avoir déjà un premier niveau d'assistant de vie, spécialité handicap et perte d'autonomie.
Les formations sont toutes à plein temps.
Oui, ça nécessite du plein temps. Oui. Donc c'est, oui, c'est 35 heures par semaine. Mmh. Après, il y a des formations pour les gens qui sont déjà en poste. Hein. Donc ça, c'est des formations qui sont sur mesure, qui peuvent se dérouler d'un jour à 3 jours. Ça peut être en demi-journée. Et ça, c'est des choses qu'on peut construire ensemble par rapport aux besoins. Surtout, il faut avoir des habiletés, en fait. D'ailleurs, il y a une méthode qu'utilise Pôle emploi là, dernièrement par rapport à ce secteur d'activité. C'est de vraiment de partir des habiletés, ça veut dire de partir des savoirs les plus profonds. Est-ce qu'on a la posture ou pas humaine de travailler dans ce métier-là ?
J'avais juste une petite question. Comment vous formez les auxiliaires de vie à faire avec la famille ou avec les autres personnes qui aident déjà ?
Ouais. Ça, c'est un gros challenge, c'est l'environnement. Voilà. C'est respecter l'existant. Et puis, essayer de l'appréhender au mieux, d'évaluer les choses, de se positionner. Comment on peut former là-dessus et aussi se protéger. Parce que je dis bien que les auxiliaires de vie, on est bienveillant aussi envers eux. C'est que l'environnement, des fois, c'est pas facile. Bah ouais, parce qu'on y met tous de l'affectif, hein, l'aidant familial, le conjoint, conjointe, enfant, parent. C'est pas facile de faire venir quelqu'un au sein de son domicile. C'est pas facile de voir un proche qui perd de l'autonomie. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, nous, ce qu'on veut, pour être bienveillant envers l'auxiliaire et envers les personnes, ben, c'est de les faire de rencontrer des aidants qui témoignent sur comment ils ont vécu cette intrusion.
Moi, avant, j'étais très en colère. Je m'énervais surtout contre ma mère, parce que c'était elle mon auxiliaire de vie. Mais avec le temps, j'ai su que c'est bon, tout va bien, que pourquoi je m'énerve pour un rien, voilà.
C'est sûr, la place de l'aidant, même familial, la place de l'aidant familial envers la personne qui est concernée par le handicap, c'est un énorme challenge, c'est dur. C'est une modification de la structure familiale, de son autonomie. C'est dur hein, quand ça touche à l'autonomie, hein, quand on a été, surtout quand on a été actif, super actif. C'est clair. Donc tout ça, même il y a des aidants et des personnes concernées par le handicap qui viennent l'expliquer. Cette subtilité-là qu'on ne trouve pas dans les bouquins, ça on ne trouvera jamais dans un livre, ce que tu viens de dire, tu vois. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qu'on recherche. Voilà.